VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, 12 personnes ont été blessées hier dans une attaque contre le convoi du gouverneur du Sud-Ouest.
Au Tchad, visite du président Idriss Déby Itno dans l'Est après la percée d'une colonne rebelle.
Washington a dénoncé l'usage excessif de la force au Zimbabwe lors des manifestations contre le doublement des prix des carburants.
Le président américain Donald Trump exclut un nouveau shutdown, même s'il n'est pas satisfait du compromis au Congrès sur le financement de son mur à la frontière avec le Mexique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, attaque hier contre le convoi du gouverneur du Sud-Ouest en zone anglophone. 12 personnes ont été blessées. L'attaque a été perpétrée sur la route de Kumba, ville située à 70 km de Boya, chef-lieu de la région. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jumtap.
C'est pendant que le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okala Bilahi, se rendait sur le site de l'hôpital de Kumba, incendié lundi dernier, que son cortège a été pris pour cible par des hommes armés. Le même scénario s'est produit sur le chemin de retour. Nous avons été attaqués à 5 reprises, a précisé une source de la région du Sud-Ouest qui faisait partie du convoi du gouverneur. Selon des sources sécuritaires, l'attaque a blessé 10 militaires et 1 civile, journaliste de la chaîne de télévision privée Canal 2. 4 personnes ont été grièvement blessées et conduite à Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. VOA Afrique a pu constater sur des photos de l'attaque plusieurs impacts de balles sur des véhicules de convoi. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a pu néanmoins rallier Kumba et rentrer sur Boya sain et sauf. En avril 2018, en partance pour l'installation d'un préfet, le convoi du gouverneur du Sud-Ouest avait essuyé 2 attaques attribuées aux séparatistes anglophones. Depuis le 5 février dernier, les séparatistes ont demandé aux populations de rester dans leurs maisons jusqu'au 15 février. Lundi dernier, au petit matin, 4 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie de l'hôpital de Kumba. Le gouvernement et les séparatistes anglophones s'accusent mutuellement d'avoir incendié l'hôpital en question. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a entamé hier une visite à Abéché, la principale ville de l'Est, après la percée d'une colonne rebelle début février depuis la Libye. Le point avec Raissa Girondin.
Idriss Déby Itno a quitté N'Djamena accompagné de son ministre de la Défense, Daoud Yaya, et celui de la Sécurité, Mahamat Abi Ali Salah. Peu avant son départ, la radio nationale a annoncé la nomination de plusieurs commandants de gendarmerie, dont ceux de Bardaï, Faya Larjo et Fada, chef-lieu des 3 régions troublées du Nord. Début février, le groupe armé Union des forces de la résistance, dirigé par Tima Nerdimi, neveu du président Déby, a fait une incursion dans le nord-est du Tchad depuis la Libye. La France a procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre leur colonne de pick-up. Il y a eu une attaque pour prendre le pouvoir par les armes et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État, a affirmé Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Samedi, l'armée tchadienne a annoncé avoir capturé plus de 250 terroristes, saisi plus de 40 véhicules et plusieurs centaines d'armes. Selon l'UFR, ce bilan est fantaisiste et seulement 30 de ces combattants ont été faits prisonniers après s'être réfugiés dans une grotte à la suite des bombardements français.
Au Sénégal, 20 personnes ont été arrêtées suite à la mort de 3 personnes pendant la campagne pour la présidentielle du 24 février. C'était lors d'affrontements à Tambacounda entre partisans du président sortant Macky Sall et ceux de l'opposant Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le gouvernement s'est engagé mardi à assurer la sécurité de tous les candidats. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Saïdina Abagay.
Les États-Unis dénoncent la répression engagée au Zimbabwe par les forces de l'ordre face à la colère sociale et ils appellent toutes les parties à participer au dialogue national boudé par l'opposition. Le point avec Morgane Guériec.
Le porte-parole du département d'État américain, Robert Paladino, a réitéré dans un communiqué les inquiétudes de Washington face à l'usage excessif de la force lors des manifestations contre le doublement des prix des carburants. Selon M. Paladino, le bilan de cette répression est d'au moins 13 morts, 600 victimes de violences, tortures ou viols et plus de 1000 arrestations. Les membres des forces de l'ordre responsables des violations des droits humains doivent rendre des comptes, a-t-il insisté. Les États-Unis appellent toutes les parties à rejoindre immédiatement le dialogue national, qui doit toutefois être crédible, inclusif et sous l'égide d'une médiation neutre. Robert Paladino a estimé que la fin des violences excessives et des intimidations, ainsi que la libération immédiate des militants de la société civile arrêtés arbitrairement, sont des conditions à la réussite de ce dialogue. Le président Emmerson Mnangagwa a tenté la semaine dernière de relancer le dialogue national, mais son initiative a été boudée par l'opposition, qui exige la fin de la répression.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a dit hier qu'il n'est pas satisfait d'un accord présenté par des négociateurs républicains et démocrates sur la construction de son mur à la frontière avec le Mexique. Monsieur Trump exclut toutefois la perspective d'un nouveau shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Des détails avec Irénée Herman-Humbo.
Le président Trump persiste, nous terminerons le mur. Washington a jusqu'à vendredi minuit pour éviter une nouvelle impasse qui conduirait à une nouvelle paralysie partielle des agences fédérales américaines. Depuis la Maison-Blanche, il a exprimé son mécontentement face à la proposition des démocrates. Le locataire de la Maison-Blanche a laissé entendre qu'il pourrait trouver ailleurs des fonds pour compléter le financement du mur, indiquant qu'il ne souhaite pas un autre shutdown. Mais s'il y en avait un, ce serait la faute des démocrates, a-t-il souligné. Lundi soir, des négociateurs républicains et démocrates sont parvenus à un accord budgétaire de principe pour éviter un autre shutdown. Il prévoit 1,3 milliard de dollars pour construire environ 90 km de nouvelles barrières à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Donald Trump a réclamé près de 6 milliards. Face à un Congrès divisé, toute loi budgétaire doit faire l'objet de compromis. Le président Trump a droit de veto, mais la pression est immense sur les deux camps pour éviter une nouvelle paralysie.
États-Unis toujours, à New York, hier, un jury a reconnu coupable le narcotrafiquant mexicain El Chapo de toutes les accusations retenues contre lui. Ce procès qui a duré 3 mois a permis d'exposer l'extrême violence des cartels de la drogue, Claire Morin-Gibourg.
Le verdict a été annoncé au 6e jour de délibération par les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn. Au terme de la loi américaine, El Chapo, 61 ans, devrait passer le reste de sa vie en prison. Le Mexicain a été extradé aux États-Unis en janvier 2017, après 2 évasions spectaculaires au Mexique. Les enquêteurs américains ont fait défiler à la barre 56 témoins, dont de nombreux ex-associés ou employés d'El Chapo. Ils l'ont tous accusé d'avoir co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa à l'ouest du Mexique. Ces témoins ont décrit avec force son rôle central pour organiser l'exportation de plus de 155 tonnes de cocaïne venues de Colombie vers les États-Unis. Ils ont aussi décrit les violences pour neutraliser les rivaux ou la corruption de la police, des militaires et représentants du gouvernement mexicain pour qu'ils ferment les yeux face à ce trafic. Les avocats de la défense ont dénoncé une mascarade de procès, assurant qu'El Chapo n'était qu'un bouc émissaire. Ils ont assuré qu'Ismael El Mayo Zambada, co-dirigeant du cartel toujours en cavale, était le vrai patron et la pièce manquante à ce procès.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a annoncé que l'aide d'urgence américaine entrerait dans le pays le 23 février, malgré le refus du président Nicolas Maduro, qui, niant toute famine dans son pays, la considère comme une première étape avant une intervention militaire. Juan Guaido, qui a été reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, a donné ses assurances hier devant une foule de partisans rassemblés dans un quartier dans l'est de Caracas. Il a demandé aux quelques 250 000 volontaires inscrits pour participer à l'acheminement de l'aide stockée à la frontière de se tenir prêts pour former des caravanes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Uniteco Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, l'État a augmenté de plus de 7% les frais des paiements ou transferts d'argent par téléphonie mobile en 2019. Plus de 30 millions de consommateurs seront touchés par cette mesure. Les transactions financières ont atteint 6 300 milliards de francs CFA en 2018, soit un volume journalier de 15 milliards de francs CFA. La téléphonie mobile représente 8% du PIB ivoirien et est l'un des plus gros employeurs dans le pays. Au Nigeria, l'usine de transformation de tomates de la filiale Dansa Holding du groupe Dangote pourrait se remettre en marche d'ici 2 semaines. Selon Ecofin, cette relance surviendra après une fermeture de plus d'un an liée à la baisse de l'approvisionnement en matières premières de l'usine basée à Kadawa dans l'état de Kano. Elle a été lancée en mars 2016 grâce à un investissement de 20 millions de dollars et s'étend sur 17 000 hectares avec une capacité de transformation de 1 200 tonnes de tomates par jour. Terminons avec le groupe pétrolier national sud-africain PetroSA qui annonce des pourparlers avec la société d'électricité Eskom pour le ravitailler en carburant et éviter les délestages. À court d'argent, Eskom a annoncé les pires coupures d'électricité depuis plusieurs années en Afrique du Sud à cause de la diminution de ses réserves de diesel, un déficit que PetroSA cherche à combler.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaîtra ce soir les deux équipes à la finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, dans la première demi-finale, on aura un duel ouest-africain entre le Nigeria, septuple vainqueur de la compétition, et le Mali. Les aiglons maliens, justement, n'ont jamais remporté la CAN des moins de 20 ans et ne comptent rien lâcher cette année, comme nous le dit leur sélectionneur, Mamoutou Kanedi Mourlé.
C'est un match comme les autres. Il faut le jouer avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Le Nigeria, c'est l'équipe la favorite, mais cela l'empêche. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est en train de faire notre nid. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. J'ai essayé de faire une sélection en sorte que tout le monde puisse jouer et que si un sort, un autre rentre, qu'on ne se sent pas. Je peux me tromper, c'est mon choix, mais je suis sûr et certain ceux qui vont rentrer vont donner le meilleur demain.
Dans l'autre demi-finale, le Sénégal vise une troisième finale de rang s'il bat l'Afrique du Sud. Les Lionceaux sénégalais ont fait un parcours sans faute au premier tour avec 3 victoires en 3 matchs, de quoi booster leur morale. Écoutons Youssouf Dabo, l'entraîneur du Sénégal.
J'ai pas d'appréhension par rapport à ce match parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est ce que fera mon équipe. À partir du moment où on travaille bien à l'entraînement, je pense qu'il y aura pas de souci. Comme je le dis tout le temps aux joueurs, les résultats des matchs, on les maîtrise pas avant. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Essayer de leur donner assez de repères, en tout cas offensifs et défensifs, pour qu'ils puissent aborder les matchs avec la sérénité qu'il faut.
Mamoutou Kané et Youssouf Dabo étaient au micro de Siaka Traoré, notre envoyé spécial à Niamey.
Deuxième journée de la Coupe CAF ce soir.
Oui, dans le groupe A, le Raja Casablanca accueille Otto Doyo du Congo-Brazzaville. Affiche intéressante dans le groupe D entre le Zamalek du Caire et les Algériens de Nasr Hussein Dey. Asante Kotoko du Ghana reçoit Zesco United de la Zambie dans le groupe C, alors que le club sportif sfaxien de la Tunisie se mesure à Enugu Rangers du Nigeria.
Ça se complique pour l'ASEC en Ligue africaine des champions.
Et oui, dos au mur, les Ivoiriens se sont contentés hier d'un match nul à domicile face à Mamelodi Sundowns 0-0 pour le compte de la 4e journée du groupe A. Mais tout n'est pas encore fini, nous dit le coach de l'ASEC d'Abidjan, Amani Yao.
On a plus eu le ballon que cette équipe, contrairement au match aller. On a plus eu le centre, maintenant, comme je dis, c'est la finition qui nous a manqué. On a plus été présent dans leur camp que dans le nôtre. Ce qui nous a manqué énormément au match aller. Bon, mathématiquement, je dis, il n'y a encore rien qui est fait, donc on va batailler jusqu'au bout.
Amani Yao était au micro de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. Dans l'autre match de ce groupe A, le Wydad Casablanca a été tenu en échec à domicile par les Nigériens de Lobista, 0-0.
Belle opération pour Oroya dans le groupe B.
Et oui, les Guinéens se sont imposés 2-0 face aux Zimbabwéens du FC Platinum à Conakry. Même score en faveur de l'Espérance Tunis face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, 2-0 donc. Dans le groupe C, le club africain et le TP Mazembe se sont quittés 2-0 à Rades. La rencontre entre Ismaili et Constantine a été reportée. Enfin, dans la poule D, l'AS Vita Club s'est mise en danger en s'inclinant 1-0 en Algérie face à Saoura. Les Tanzaniens de Simba ont créé la sensation en s'offrant le scalp d'Al-Ali 1-0 à Dar es Salaam. On finit avec les résultats de la nuit dernière en NBA, c'est en basketball.
Atlanta et LA Lakers 117-113, Boston et Philadelphie 112-109, San Antonio et Memphis 108 à 107, Orlando et la Nouvelle-Orléans 118 à 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, plusieurs guides religieux et personnalités publiques font appel pour assurer leur sécurité privée à des groupes souvent assimilés à des milices. L'un de ces groupes, affilié au Parti de l'Unité et du Rassemblement, est à l'origine des récentes violences meurtrières dans la région de Tambacounda. Que pensent les Sénégalais de ces groupes? Reportage de notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
La scène surréaliste qui s'est déroulée à Tambacounda entre des militants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakar et ceux du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur inquiète plus d'un. Ça pousse même certains citoyens à se poser la question de savoir si les guides religieux ou responsables politiques ont le droit d'avoir des hommes armés. Négatif, répond Babacar Fall. Ce gérant d'un multiservice trouve cette pratique anormale.
Ces histoires d'armées, milices et autres là, pour moi, c'est pas du tout normal. Parce que ce soit un chef religieux, un homme politique ou qui que ce soit, normalement, si vous voulez avoir une sécurité pour vous personnellement, vous devez vous procurer soit la police ou la gendarmerie. Pour moi, c'est la seule sécurité qui est là, valable ici, actuellement au Sénégal et même partout dans le monde. Parce que les petites armées à gauche, à droite, ça amène que des problèmes en fin de compte.
Étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousseynou Kane trouve que dans un état de droit, personne ne devrait engager des civils pour assurer sa sécurité.
C'est quelque chose qui est déplorable entre les deux camps, dans une situation où on dit que le Sénégal c'est un pays démocrate où chacun peut exprimer ce qu'il pense. Donc arriver à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on déplore, quoi. Donc concernant les gardes-corps, les hommes religieux comme les hommes politiques, je pense qu'il faut qu'on essaie de les éviter. Il faut que l'État prenne en charge cette question de sécurité, éviter les querellements entre les camps, les hommes politiques, essayer de prendre ses responsabilités, quoi.
Mustapha, lui, voit cette situation comme une faiblesse de l'État. Selon lui, seules les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité ont le droit de s'armer.
Moi, je considère ça comme une irresponsabilité de notre État. Selon Seigne Modou Kara, par exemple, il a son armée. On peut dire que c'est lui qui dirige cette armée. Il peut donner des ordres à faire quoi que ce soit. Ils ne vont qu'exécuter. Seulement, c'est notre armée nationale qui doit avoir ces armes-là. Donc, quiconque qui l'aura, donc, ça peut constituer un danger public pour nous tous.
Pour mettre un terme à cette situation qui perdure, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngoï Ndiaye, promet de prendre les dispositions nécessaires pour interdire ces milices.
Je ne pense pas que ça soit lié au problème de sécurité. Vous avez tous vu les images. Donc, je pense que si vous voyez les images, ça montre simplement que d'abord, les personnes recrutées autour des différents candidats font preuve d'une violence anormale et nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela s'arrête.
L'opération annoncée par le ministre de l'Intérieur semble avoir commencé avec notamment l'arrestation de 24 membres de la sécurité du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Après cet événement tragique de Tambacounda qui a fait 3 morts et des dizaines de blessés parmi lesquels des journalistes, les populations demandent à l'État d'être plus responsable et d'interdire formellement l'existence de ces groupes de sécurité privés souvent assimilés à des milices. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, plusieurs imams ont rassemblé dimanche dernier des dizaines de milliers de personnes dans un stade de Bamako. Les leaders du Haut Conseil islamique ont notamment réclamé le départ du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga. Au micro d'Idriss Fall, le rappeur malien Ismaïla Doukoulé, alias Master Soumi.
Je ne sais pas spécifiquement s'il y a des problèmes personnels entre les responsables du Haut Conseil islamique et le chef du gouvernement, Chimelu Boubé Maïga, mais l'arrogance du pouvoir, le mépris du pouvoir vis-à-vis de la société civile, de la population malienne et vis-à-vis des leaders d'opinion, toute cette contestation part de cela.
Mais est-ce que c'est à des imams de demander qu'on change le chef du gouvernement? Est-ce que c'est leur rôle?
Ces imams-là, d'abord, c'est les citoyens maliens. Ils ont les droits de protester, ils ont le droit de contester la manière de faire du pouvoir. Mais maintenant, pourquoi l'imam demande le départ du gouvernement? En réalité, le poids et le statut que nos leaders religieux ont aujourd'hui, c'est une attribution pure et simple du pouvoir. Quel est l'homme politique malien qui ne fait pas la courbette devant les mosquées au Mali, qui ne court pas derrière ses religieux pour avoir de l'électorat, pour avoir l'accompagnement de leurs fidèles, pour demander à leurs troupeaux de voter pour X ou Y? Quel est l'homme politique malien qui ne va pas, même souvent en catimini, chez ces leaders religieux-là pour leur donner de l'argent, pour qu'ils mobilisent pour eux? Nos hommes politiques s'appuient sur ces leaders religieux pour accéder au pouvoir. Ils ont fabriqué leur propre monstre. Le pouvoir a fabriqué son propre monstre.
Mais le monstre ne se tait pas, parce qu'on se rappelle, sous Amadou Toumani Touré, ce sont ces mêmes imams qui ont fait reculer le code de la famille, qui relègue la femme à l'arrière-plan de la société.
Oui, mais lors de ces différents meetings contre ce projet d'Amadou Toumani Touré, qui était au lieu du meeting, parlant des hommes politiques? Monsieur Ibeka, l'actuel président du Mali, son Excellence Ibeka, il était à ce meeting. Donc ils se sont toujours appuyés sur ces hommes-là pour accéder au pouvoir. La question, elle est claire. Qui a appelé à voter pour Ibeka en 2013? Ibeka était très fier d'aller tendre sa tête sous les mains du shérif de Nioro Bouye pour qu'il lui fasse des bénédictions. Ibeka était fier de collaborer avec ses Mahmoud Duko, avec tous ces autres imams-là, qui tous ces leaders religieux du Mali.
Mast Soumi, je ne vais pas vous laisser partir sans que vous me fassiez un freestyle en direction de la jeunesse du Mali et en direction de la jeunesse africaine.
Yo, pour une Afrique unie, Kadhafi est puni, le Mali aussi, parce que ami de la Libye. Kadhafi est parti parce que trahir sa patrie pour sa propre survie n'a pas été sa vie. Le sous-sol qui console le monopole du pétrole, seulement sans protocole pour aller sauver ses cols. Kadhafi a dit non, il fut un démon. Kadhafi refusa, résista, on le tua. Benghazi mal parti, l'euthanasie choisie au profit de la bourgeoisie, on regrette Kadhafi. Big up, galère du système.
Le rappeur malien Ismaïla Doukoulé, alias Mast Soumi.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'Ordre des médecins du Cameroun qualifie de barbare l'attaque menée par des hommes armés contre un hôpital de Kumba en zone anglophone. Les assaillants ont incendié l'établissement, mettant en fuite les malades et le personnel médical. Reportage sur place de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Michel Joseph.
L'hôpital de Kumba, en région anglophone du Sud-Ouest, est silencieux après l'attaque qui l'a réduit en cendres. En temps normal, il accueille quotidiennement des centaines de malades et de femmes enceintes. Obéissant à une directive gouvernementale, le personnel médical avait évacué 90% des patients vers d'autres établissements, selon l'infirmière Rosemary Kimby.
Nous avons envoyé à la maison les malades qui se sentaient mieux, tout comme les femmes qui avaient accouché. Les autorités nous avaient ordonné d'envoyer les cas les plus sérieux dans d'autres hôpitaux. J'ai pris que mes collègues qui se sont enfuis durant l'attaque reviennent. Le gouvernement a promis d'assurer leur sécurité.
Mardi, les absences étaient à 80%, ce qui inquiète beaucoup Marvelous Manka, une fille de 14 ans dont la mère souffre de cancer et pourrait succomber en l'absence de personnel soignant. Il leur a été recommandé de voir un spécialiste dans un hôpital de la ville voisine de Boya. À cause de l'insécurité, il est impossible de s'y rendre.
Toutes les routes sont bloquées et personne ne se déplace. Je prie que la situation change et que les choses retournent à la normale. Puisse Dieu faire cesser ces attaques.
Selon le gouvernement camerounais, une vingtaine de séparatistes armés ont attaqué et incendié l'hôpital de Kumba lundi matin. Le bilan officiel fait état de 4 morts, dont 2 patients tués. Selon les journaux locaux, les séparatistes en voudraient au personnel de l'hôpital de soigner les militaires blessés dans les affrontements et les soupçonnent de divulguer à l'armée l'identité des combattants anglophones.
Des accusations rejetées catégoriquement par Tetani Ekwe, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Ça nous laisse véritablement sans voix. L'Ordre national des médecins du Cameroun a toujours respecté une neutralité stricte entre les partis en conflit dans un problème politique. Mais lorsque nous voyons la nature du conflit atteindre ce qu'il y a de plus cher dans la société, à savoir la personne humaine, l'Ordre national des médecins ne peut pas rester indifférent quand il voit un hôpital, du personnel de santé et des malades véritablement réduits en cendres, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, nous ne pouvons être que choqués.
Sur les médias sociaux, les séparatistes accusent l'armée camerounaise d'avoir incendié l'hôpital de Kumba en vue de ternir leur image. Les combats ont repris de plus belle dans les zones anglophones du Cameroun. Les séparatistes ont décidé de paralyser les activités pendant 10 jours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la Banque africaine de développement, la BAD, et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, organisent un forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture. Il s'agit pour les deux organisations d'apporter davantage de financement au profit des jeunes qui s'impliquent dans l'agriculture. De Brazzaville, reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis quelques années, la tendance de voir les jeunes travailler dans l'agriculture se relève dans le pays. Alors que les palmiers sont plantés en zone forestière, deux jeunes, Arnaud et Michel Ndjombo, développent d'importantes plantations à Igné, à 45 km au nord de Brazzaville, en pleine savane. Michel Ndjombo.
Nous avons vu qu'il y avait un réel intérêt à s'installer en savane pour faire du palmier, parce que les différences de rendement n'étaient que de 30% par rapport à la forêt. Nous nous disons que nous pourrons gagner 1 à 2 tonnes par hectare en plus que ces surfaces, donc on sera autour de 12 tonnes hectare.
Patrick Mbembe, lui, se distingue dans la commercialisation des produits agricoles, un métier qui ne tentait jusque-là aucun jeune.
Donc nous sommes dans la production agricole, nous sommes dans la protection agricole, nous sommes dans la commercialisation des produits agricoles, nous sommes aussi dans la vente des intrants et matériels agricoles. J'emploie déjà 17 jeunes congolais de façon directe et de façon indirecte, je suis au moins à 300 jeunes congolais.
Pour le gouvernement congolais, il faut plus de moyens pour appuyer les jeunes. Henri Ndjombo est ministre d'État en charge de la agriculture.
Pour inciter les jeunes, il faut électrifier les zones rurales, passer de l'étape de l'agriculture pluviale à celle irriguée, créer les conditions de logement en milieu rural. Tout part de l'apprentissage. Les jeunes doivent être formés pour pouvoir exercer des métiers à tous les niveaux. Il faut simplement créer les conditions de base.
C'est dans ce contexte que se tient à Brazzaville un forum sur les opportunités d'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Pour Dr Doré Ousmane, directeur général de la BAD, zone Afrique centrale, les jeunes doivent percevoir l'agriculture comme un vrai business.
Les jeunes sont prêts à suivre. Vous savez, ce qui a souvent manqué dans l'équation, c'est l'entrepreneuriat. On n'a jamais formé les jeunes à la technique d'entrepreneuriat. Or, l'agriculture, il faut le reconnaître, nous ne sommes pas dupes. C'est un secteur à haut risque. Le financement du secteur est même un peu problématique avec les banques. Donc, ce qu'il faut, et ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'il y a des mécanismes qu'on a mis en place, nous, la Banque africaine, d'autres partenaires financiers, pour essayer de régler cette problématique-là. Et comment un jeune qui a été formé dans les techniques d'entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'être un agronome, qui doit être disconnecté de l'approche traditionnelle où on pense que l'agriculture, voilà, c'est juste pour faire une production qui parfois n'est même pas véhiculée sur les marchés, qui pourrissent souvent, manquent d'entrepôts ou d'énergie. Voilà un peu la nouvelle approche.
La réunion qui se tient à Brazzaville devrait se terminer par l'identification des vrais projets agricoles suivis des diverses annonces des financements. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la transmission du VIH-Sida par la voie sanguine.
Un peu moins connu du public que la voie sexuelle, la transmission sanguine du VIH est l'un des premiers modes de contamination chez les usagers de drogues injectables et les personnes qui partagent en commun les objets tranchants.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Arsène Kalenga, médecin en RDC. Il nous dira comment réduire les risques de transmission du virus par le sang.
Nous écouterons le témoignage de John Matemouli, propriétaire d'un salon de coiffure. Nous écouterons aussi le secrétaire exécutif du programme de de lutte contre le sida en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.